Donc, rebonjour. Nous sommes heureux d'accueillir maintenant Guy Cherki et Françoise Soulet pour cette seconde table ronde. Alors, Guy Cherki, vous êtes inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional de lettres dans l'académie de Grenoble, délégué académique aux arts et à la culture et responsable du CASNAV. Vous connaissez également le réseau très bien puisque vous avez été directeur d'instituts français en Allemagne, si je me trompe, c'est ça ? Françoise Soulet, vous êtes présidente de l'Association des enseignants de français en Suède et maître de conférence à l'Université de Stockholm. Et votre témoignage pour nous est très précieux puisque vous allez nous présenter quelques exemples de belles réussites, si j'ai bien compris. Voilà, alors vous connaissez maintenant la règle du jeu, le temps est limité, donc je vais poser une série de trois questions. Auxquels nos invités, nos intervenants vont répondre à tour de rôle. Et puis, il nous restera une vingtaine de minutes pour échanger librement autour de ces questions. Donc, après la première table ronde qui portait sur les outils innovants et numériques, je vous propose maintenant de nous pencher sur les approches interdisciplinaires. Et justement, on en parle depuis très longtemps de ces approches. Françoise Soulet, elles sont où les innovations finalement ?
C'est la question piège. Les innovations, elles sont... Déjà, quand on monte un projet, il faut avoir un financement. Je dirais bêtement qu'un projet nécessite des fonds. Quand on a le financement, on peut faire le projet. Le projet se fait toujours avec une équipe. Il faut faire confiance à l'équipe. Il faut avoir toujours des évaluations constantes du projet. Il faut avoir ensuite une évaluation finale du projet. Et il faut être visible. En gros, c'est ça.
D'accord. Monsieur Cherki, vous allez dans le même sens que Françoise Soulet ?
Je pense que, d'une certaine manière, dans la période dans laquelle nous sommes, qui est une période de vaste questionnement pédagogique, il faut qu'il y ait de l'innovation partout. Et ça n'est pas une question d'initiative personnelle, mais c'est une question qui concerne la pression de l'évolution du système éducatif, de l'évolution de nos élèves, de l'évolution aussi des contextes. On vient de voir la question du numérique. Et ça contraint évidemment le professeur à se poser des questions sur son rôle, sa manière de transmettre, et même ce qu'il transmet. Ce que je veux dire, la question des savoirs qu'on transmet en classe est aussi une question forte. Donc, à chaque fois qu'il se pose ces questions, forcément, la réponse va passer d'une manière modeste ou d'une manière ambitieuse par l'innovation.
Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces approches interdisciplinaires font évoluer ou bouleversent peut-être le métier de l'enseignant ?
Je peux donner quelques exemples.
Oui.
Quelques exemples de projets qui sont interdisciplinaires, mais aussi ancrés dans le réel. Il y a un projet que l'on a commencé pour l'année 2013-2014. Et c'était un projet éducation contre le racisme avec la fondation Lilian Thuram. Le projet commence de cette façon-là. C'est un élève qui me dit « Je viens lire un livre, il est génial, Lilian Thuram. » Lilian Thuram ne connaît pas. « Comment, vous ne connaissez pas, c'est le joueur de football. » Football, moi, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Mais c'est comme ça que le projet a commencé. J'ai été voir je me suis renseignée sur Lilian Thuram. Lilian Thuram, joueur de football de haut niveau, laisse la compétition pour faire une association qui s'appelle la Fondation Thuram, éduquer contre le racisme. Et c'est comme ça que le projet a commencé. Donc, nous voulions faire un projet éducation contre le racisme en utilisant un texte qui s'appelle « Mes étoiles noires » où il parle de modèles, « Mes étoiles noires » qu'il aurait aimé connaître ou avoir lu quand il était enfant et durant toutes ses études. C'est un texte qui est composé de courts chapitres et qui est une sorte de compilation de personnages célèbres, noirs. Donc, le projet commence. Il s'agissait de le mettre en place et on décide d'utiliser ce texte dans le cadre de la francophonie et de faire un concours pour tous les élèves, tous les apprenants de primaire jusque le public adulte, puisque je suis aussi à l'université, autour de ce thème. Et avec le soutien de la FIPF, là on postule pour le prix de la pédagogie FIPF, on a le premier apport monétaire nécessaire au projet. Ensuite, il s'agissait de trouver l'équivalent en Suède pour que le projet fonctionne, pour que le projet soit ancré dans le réel suédois. Et c'est là que l'on a pris contact avec des associations de football. Donc c'est là où j'ai appris beaucoup sur le football. On a aussi contacté une association qui s'appelle Africulture. Ce sont des composés de culture africaine. C'est une association suédoise. On a aussi contacté le syndicat des enseignants suédois. LR, pour la visibilité. On a contacté énormément de gens, d'associations, et chacun y a mis son écho. Ce qui fait que si vous regardez le résultat du projet, vous avez des tas de logos. Et le projet a fonctionné, a été extrêmement bien reçu, extrêmement visible. Et pendant une semaine, on a eu le privilège et la joie d'avoir Lilian Thuram en Suède. Et en visitant des écoles, des rencontres avec des jeunes, des échanges extrêmement porteurs. Les échanges étaient toujours en français, avec traduction vers le suédois. L'anglais n'a jamais été la langue utilisée. Français vers le suédois, suédois vers le français. Et visite d'écoles, visite d'établissements, rencontres avec des associations. Et le résultat de ce premier projet, ça a été donc le prix de la francophonie, le concours de la francophonie, des prix nombreux qui ont été donnés, et puis ça. Des lycéens ont choisi de traduire. Ce texte était tellement important pour eux, ils ont choisi 14 chapitres de Mes étoiles noires qu'ils ont traduit en atelier, non pas d'écriture, mais en atelier de traduction, la traduction connaissance de l'autre, du français vers le suédois. Avec, encore une fois, il fallait avoir l'accord de la maison d'édition, l'accord de l'agence Opal pour avoir la photographie de Lilian Thuram, l'accord de Thuram, mais tout s'est mis en place. Tout s'est mis en place en sachant que ce CD aura 14 chapitres en français et en suédois. C'est une opération d'écriture, traduction du français vers le suédois, avec aussi une enseignante traductrice suédoise qui a supervisé la correction du suédois. Les textes ont ensuite été enregistrés au laboratoire de langue de l'Université de Stockholm. Lilian Thuram a enregistré l'introduction. Un écrivain suédois a téléphoné en disant « Mais je fais l'introduction en suédois, c'est évident. » Björn Ranelid, qui est traduit d'ailleurs en français. Et vous entendrez sur ce CD qui est gratuit. L'idée, c'est de le distribuer gratuitement. 14 textes extrêmement utiles d'étoiles noires. Mais vous apprendrez le suédois de la même façon. Donc c'est ce projet qui continue et ce projet marche bien. Et ce projet a tellement motivé toute cette équipe que l'on continue sur 2014-2015 avec la BD, une bande dessinée. J'adore la bande dessinée. la BD de Lilian Thuram, Notre histoire, même principe. Et Atelier d'écriture avec une ethnologue qui expliquera aussi le contexte. Et une maison d'édition suédoise est intéressée et va publier le livre dans la traduction donc des élèves revus avec cette traductrice. Et ça sera pour, en principe, mars 2015. Et Lilian Thuram revient, et cette fois c'est un autre budget encore une fois, c'est un peu l'équipe du départ, mais cette fois avec le Festival de littérature de la ville d'Umeå, avec un projet qui s'appelle Globala Skolan, qui favorise les échanges éducatifs. Donc le projet est pris en charge maintenant, en fin de compte, par une équipe suédoise. Mais la langue sera toujours le français en traduction suédoise. Donc le projet fait boule de neige et c'est parfait.
Alors justement, si je comprends bien, ce projet est venu des élèves. Et quel conseil, et puis c'est un projet qui me semble très ambitieux et qui réussit, quel conseil vous pourriez donner aux enseignants qui se lancent dans ce genre de projet qui n'est pas inné, qui demande pas mal de compétences, à contacter les maisons d'édition, rencontrer un sportif de haut niveau? Quel conseil donneriez-vous aux enseignants?
En fin de compte, c'est la question que j'aimerais vous poser. Si vous répondez à la question, vous aurez droit à un pepparkaka. Gâteau suédois. À votre avis, comment on fait? Déjà, alors les gâteaux peuvent déjà commencer à passer. Tu fais passer.
Faites passer les gâteaux, moi je fais passer le micro. Voilà.
Bonjour.
Une question.
Non, moi, je crois qu'il faut de la passion. Si on prend un projet, on avance.
Oui.
Si
on ne croit pas, on avance. Oui.
Enfin, moi, on a un projet un peu similaire. C'est une idée qu'une collègue avait lancée comme ça, parce qu'elle le faisait avec ses élèves. Et ça marchait. On a beaucoup discuté ensemble, parce qu'effectivement, une chose, c'est faire une petite expérience en classe. Une autre chose, c'est monter une opération et engager d'autres personnes et faire de la formation. Voilà, je crois que on y croit, si on est motivé, ben, ça va de l'avant.
Il faut y croire et être une équipe et faire des réunions avec protocole de discussion et qui fait quoi et ne pas abandonner.
Rebonjour. Moi, ce que je crois, premièrement, c'est qu'il faut être à l'écoute des intérêts de nos élèves. Je pense que c'est la première chose. Il faut aussi travailler avec nos collègues, et pas nécessairement nos collègues qui sont professeurs de français, mais nos collègues qui enseignent aux mêmes jeunes ou qui enseignent à des groupes similaires. Je vais aller vite, mais dans mon école, par exemple, on a des jeunes en difficulté d'apprentissage. On a été capable de leur faire faire une visite guidée de Montréal. Et c'était fait en collaboration entre le professeur de mathématiques, l'enseignante d'anglais, puis moi qui enseigne le français. Donc, il y a des... Oh, c'est l'heure du biscuit. Merci, je l'ai gagné. Donc, il faut parler à nos collègues, puis il ne faut surtout pas attendre après le financement pour faire quelque chose. Le financement, c'est un bonus à la clé, mais je ne pense pas que ce soit...
Je ne suis pas d'accord.
Le financement nous permet d'aller plus loin, nous permet de faire des choses. Sauf que pour faire un projet interdisciplinaire, il faut d'abord avoir des élèves motivés et puis des enseignants qui le sont aussi.
Oui,
après,
je suis d'accord.
Le reste, ça nous permet de... On peut aller aussi loin qu'on veut.
Je suis d'accord. Le projet Thuram a permis de travailler aussi avec les enseignants de gymnastique, les enseignants d'histoire, les enseignants de philosophie, les enseignants... C'était un projet qui s'est étendu, en effet. Et... ce qui était le plus intéressant, et on a eu le plaisir d'avoir Fabienne Lallemand est venue pour la remise du prix, le nombre disons d'apprenants garçons qui ont participé au projet, et le français n'était plus la langue féminine dont on parlait ce matin, mais le financement, Marc, est important, sinon on n'a pas de crédibilité.
Alors, je vais reprendre la parole et la passer à Guy Cherki en lui demandant Dans ce cadre, justement, est-ce qu'il existe, quels sont les dispositifs qui sont mis en place dans les établissements pour soutenir, est-ce qu'il en existe, pour soutenir ces initiatives d'enseignants?
Bon, je voudrais distinguer deux choses. Il y a le projet interdisciplinaire. Il y a dans pas mal d'établissements, il y a des projets qui se montent. Ça peut être quelque chose qui se monte depuis très longtemps, hein. Des voyages scolaires, par exemple, c'est un projet interdisciplinaire et ça existe depuis des années et des dizaines d'années. Et puis, il y a, et c'est toujours, ce type de projet est toujours évidemment à l'initiative de fortes individualités, ou de rencontres de gens qui se connaissent, des amitiés, etc., qui se développent, ou bien l'initiative des élèves eux-mêmes qui... Donc, là-dessus, il y a des dispositifs, aussi bien, moins dans l'éducation nationale, que des dispositifs où les... la région, par exemple, ou bien le ministère de la Culture, ou bien Jeunesse et Sport peuvent participer selon la nature du projet. Et lorsque l'on les sélectionne, on veille à ce que, justement, ils ne soient pas portés par une seule personne, qu'il y ait une équipe, une équipe si possible d'origine variée, donc ça peut être des enseignants mais aussi d'autres des professionnels de la vie disons de la société non scolaire. Alors ça ce sont des éléments qui sont évidemment habituels, mais moi ce qui m'intéresse dans la question de l'interdisciplinarité, c'est la question de la pratique au quotidien. C'est-à-dire, je prends un peu le contre-pied de la collègue, parce que, par exemple, tout à l'heure, on a vu d'extraordinaires projets numériques. Bien. Mais d'un autre côté, notre délégué à académique au numérique nous disait qu'il y avait eu quelques enquêtes qui sondaient les pratiques pédagogiques en classe avec le numérique et qu'on était quand même à un pourcentage de 97% d'enseignants qui n'ont pas de pratiques pédagogiques avec le numérique en classe. En classe, ils utilisent le numérique pour les ressources, mais ils n'ont pas cette pratique en classe, en France. Hein. Donc, y a la question qui m'intéresse, c'est, je vais caricaturer, je vais dire, c'est l'interdisciplinarité pour les 97%. C'est-à-dire, pour ceux pour qui interdisciplinarité, c'est quelque chose de vague, par quoi on commence et comment l'institution, puisque ma fonction fait que je suis entre guillemets un institutionnel, comment l'institution introduit la question de l'interdisciplinarité au quotidien. Donc, d'une part, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une transformation énorme des contextes pédagogiques. Il n'y a pas que le numérique. Hein. On a aussi une population scolaire qui a changé. 1970, 20% des élèves arrivaient au bac. Aujourd'hui, 65%. C'est pas la même chose, c'est pas la même population, c'est pas les mêmes enjeux. Et c'est pas le même enseignement. La question, c'est que notre enseignement, il a moins évolué que la population scolaire. Et donc, si vous voulez... Cette question-là interroge les pratiques scolaires, quelles qu'elles soient, et elle interroge évidemment les pratiques interdisciplinaires. J'aime beaucoup une expression qu'emploie Nathalie Mons dans un de ses bouquins en disant qu'en France, la réforme avance à petits pas et quelquefois elle avance masquée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va utiliser des leviers, des outils qui vont induire, qui vont contraindre l'enseignant à avoir des pratiques interdisciplinaires. C'est-à-dire à parler avec ses collègues et à construire quelque chose au niveau du quotidien pédagogique avec eux. Par exemple, l'histoire des arts. L'histoire des arts, ça a été introduit il y a quelques années et ça contraint les enseignants à parler ensemble, à intervenir ensemble, à prendre des décisions communes. Parce que, qu'on le veuille ou non, encore aujourd'hui, et ce que je veux dire, c'est ça n'est même pas de la faute des profs, mais l'architecture des établissements scolaires, de la très grande majorité des établissements scolaires, est une architecture héritée du 19e siècle, avec des classes dites en autobus, avec des murs, etc., etc. Ça veut dire que le professeur, quel qu'il soit, il reste toujours, à un moment ou un autre, isolé dans sa classe. Et que ça a aussi sur les élèves une influence, c'est-à-dire que l'élève qui va être peut-être un digital native, qui va avoir des pratiques numériques extraordinaires en dehors de la classe, quand il est dans la classe, si il a des savoirs qui sont dispensés en français et qu'à côté il va avoir des savoirs dispensés en histoire-géographie, même si c'est les mêmes, il considérera que ce n'est pas les mêmes. Et donc, si vous voulez, ça veut dire que le cloisonnement qui est au niveau du professeur correspond aussi à un cloisonnement de l'élève. Et que cette question du cloisonnement de l'élève, du cloisonnement... Et là, on est dans une sorte de perversion parce que l'élève est décloisonné, par exemple, dans ses pratiques numériques. Et il arrive en classe et il reprend des réflexes immémoriaux d'élèves dans sa classe. Un exemple, on a eu des expériences, on le sait, il y a des expériences tout à fait extraordinaires qui ont été faites où la même épreuve, la même, intitulée art plastique et intitulée mathématiques, eh ben, elle ne donne pas les mêmes résultats auprès des élèves. Ça veut dire qu'ils sont conditionnés par la discipline, par les représentations, par toutes sortes de choses. Et donc l'interdisciplinarité interroge ça. Et on est loin d'avoir une expérience partagée. Parce que l'interdisciplinarité, elle suppose des organisations, elle suppose des pratiques au quotidien, elle suppose des plages de rencontres. Elle suppose des pratiques aussi qui ne sont absolument pas habituelles, comme le co-enseignement. Elle suppose aussi une évaluation différente. Et donc, si vous voulez, l'institution préfère quelquefois utiliser des outils face auquel le professeur ne va pas pouvoir faire autrement que de travailler avec ses collègues. Et donc, c'est une sorte d'entrée très modeste. Alors, je donne l'histoire des arts, mais ça pourrait être aussi l'enseignement international, les DNL, les évaluations croisées ou conjointes avec un professeur de langue et un professeur de mathématiques, etc., etc. Sauf qu'en français, évidemment, nous ne sommes pas une discipline non linguistique et nous n'avons pas le droit à participer aux sections européennes parce que c'est bien connu, le français est une langue maternelle, mais pas une langue vivante. Donc, si vous voulez, je crois que c'est toutes ces questions-là que pose la question de l'interdisciplinarité. Les professeurs, évidemment, le projet est intéressant en soi parce que le projet fédère et qu'on n'a pas l'impression de faire de l'interdisciplinarité. Mais dès qu'on est dans l'institutionnel, prenons par exemple le socle commun, nous avons vu un festival d'usines à gaz pour savoir comment allons-nous vérifier les compétences des élèves avec un socle qui, depuis 2005, est prévu comme transversal et interdisciplinaire, mais on s'est emparé du socle pour en faire une déclinaison disciplinaire. Comment décliner disciplinairement quelque chose qui est fondamentalement interdisciplinaire, qu'on m'explique, je n'ai pas encore compris. Mais donc, si vous voulez, c'est une question qui fait que l'enseignement en France est structuré en disciplines, avec des cultures disciplinaires différentes, avec des géographies disciplinaires différentes. Il est clair que, par exemple, lorsqu'on a un cabinet d'histoire géo ou un labo de physique, on n'est pas comme un prof de français qui n'a pas d'espace de rencontre, sinon la salle des profs, etc. Alors, pour moi, si vous voulez, l'interdisciplinaire, pour répondre à votre question, elle part de là. Elle part de petits outils, mais qui vont contraindre les enseignants, dans leur majorité, à travailler ensemble. C'est de là que ça va partir. Parce qu'on ne peut pas... Il y a des gens qui ont la culture du projet, elle est innée. Il y a des gens qui ont envie de faire. On l'a entendu tout à l'heure. Et ça, c'est formidable. Mais il y a des gens qui n'ont pas... qui ont peur, qui n'ont pas non plus, qui ne sont peut-être pas dans un établissement particulièrement dynamique, ça existe, ou un chef d'établissement particulièrement ouvert, ça existe aussi. Hein. Y a des chefs d'établissement qui font avancer un établissement, il y en a d'autres qui en 3 mois le font absolument s'écrouler. Donc, ce que je veux dire, il y a des questions de culture, il y a des questions de contexte, et c'est pour ça que le choix sur l'interdisciplinarité a été d'utiliser des leviers. Le socle en est un, l'histoire des arts en est un autre, les sections internationales, les DNL en sont d'autres. Mais il y a d'autres exemples, si vous voulez, mais je crois que ce qu'on voit chez les collègues qui font des projets, qui est absolument merveilleux, on sait bien, malheureusement, que, d'abord, je vais peut-être vous choquer, mais si tout le monde dans un établissement se met à faire des projets et à être explosif, c'en est fini de l'établissement. Donc, forcément, par des questions d'équilibre de système, vous avez dans un établissement des gens qui font des projets, des gens qui en font moins, etc. La question est de savoir comment faire avancer tout le monde. C'est la question que je me pose.
Je vous remercie. Françoise Soulet, justement, on parle beaucoup de partage d'expériences. Quels ont été les moments clés, les étapes pour la réussite de votre projet? Comment vous avez réussi finalement à éviter ce cloisonnement dont on parlait tout à l'heure?
J'ai beaucoup aimé votre remarque sur la situation, je dirais, à la française. J'ai été professeure certifiée en France. Mon parcours est un petit peu compliqué. Je suis bourguignonne, je suis bressane, d'un petit village vers Châteauneuf. Personne ne connaît, c'est un trou perdu. Et mes parents étaient instituteurs, méthode Freinet à l'époque. Et je rencontre l'homme de ma vie qui est suédois, à Dijon. J'étais déjà professeur certifié dans le système français, envoyé à Dunkerque où j'enseigne l'anglais, et ensuite détaché en Suède, puisque mon mari était médecin, il n'avait pas le droit d'exercer comme médecin en France, étant donné qu'il n'était pas français pur laine. Donc j'émigre en Suède et j'en suis ravie. Et en Suède, là, je deviens professeur titulaire suédois. Mais pour être professeur en Suède, vous devez être déjà interdisciplinaire. Vous avez 2 matières obligatoires. Et peut-être que ça pourrait être une solution à l'enseignement français. Mais attends, je l'ai quitté, donc je dis franchement ce que je pense. Mais Klaus, c'est la même chose en Allemagne. Vous enseignez 2 matières, hein? Le Portugal, c'est aussi 2 matières. Je ne dis rien d'autre. Et cela pourrait être, cela facilite, par exemple, ce projet Turam. Le professeur de gym enseigne le français, il a gym, par exemple. C'est un atout. Et en étant enseignant en Suède, on est tenu d'être dans l'établissement. On a ce qu'on appelle ramtid. On a des heures de permanence dans l'établissement. Mais nous avons un bureau personnel. Ce qui fait que j'arrive le matin à 8h30 et j'aurai cours à 2h de l'après-midi, mais je suis dans l'établissement tout le temps. Ce qui permet de rencontrer les élèves, de travailler avec les collègues sur les projets que l'on met en place. C'est certain qu'on a cette structure est nécessaire. Hein. Et ça a aidé énormément pour le projet Turam, pour le mettre en place. Il y a eu... je ressens, si je peux seulement parler d'un projet qui peut-être vous intéresserait tous, c'est pour 2015-2016. Il faut toujours, en Suède, on prévoit toujours 3 ans à l'avance. Après, ça sera les départs en retraite. Par exemple, Marc, tu disais, il faut demander aux élèves. C'est quelqu'un, le conseil, demander ce que veulent les élèves. L'espace. De l'espace. Jacques Arnoux travaille au CNES. Il est responsable de conseiller en éthique de l'espace. En gros, si je vous pose la question, la Lune appartient à qui ? Exactement, elle appartient à tout le monde. Exactement. Très bonne réponse. Et l'espace sera un des projets que l'on va lancer pour 2015 et 2016. En raison de notre situation actuelle au niveau du développement durable. Et c'est très intéressant de voir comment les techniques mises en place, par exemple, par la recherche spatiale, peuvent être réutilisables dans notre quotidien. Nous manquons d'eau. Comment font les astronautes pour laver leurs chaussettes ? Ils ont des bactéries qu'ils mettent, c'est très simple, des bactéries qui nettoient pendant... et qui leur redonne des chaussettes propres. Donc l'idée maintenant, c'est de travailler avec comment réutiliser la recherche au quotidien. C'est un projet qui démarre, et les plus réceptifs pour l'instant, ce sont les petits de 10 ans, ceux qui posent beaucoup de questions. Pourquoi ? Pourquoi ? Qui vont travailler en binôme avec les plus grands de 20 ans, qui pourront peut-être avoir des réponses. Et ça sera des tables rondes. Donc le projet est en train de se faire. C'est pour 2015-2016, mais on est en cours de réunion. Pour revenir à votre question, l'interdisciplinarité peut être déjà demandée aux... Et ce sont encore une fois des jeunes qui m'ont dit, mais l'espace, on l'utilise tout le temps avec nos satellites. Et c'est vrai. Alors pour qu'un projet fonctionne, je reviens. Les projets se mettent aussi souvent en place avec des aides d'instituts. On a une bourse de. On a, en tant qu'association, on a de l'aide de l'État suédois, du ministère de l'Éducation. C'est une bourse, pourrait-on dire, au rendement. Si on a bien fait notre travail, on a notre bourse. Les Suédois sont très pratiques pour ça. Ensuite, il y a la collaboration avec l'ambassade de Suisse, par exemple. On a monté un projet avec une réalisatrice suisse invitée par l'ambassade, et elle a tourné en Suède avec un film « Luft Business ». On collabore beaucoup avec l'ambassade du Canada, et aussi avec l'Association internationale des études québécoises, qui nous permet des tournées d'auteurs. Et c'est comme ça que ce livre a vu le jour. Rita Mestokocho, qui est écrivaine québécoise, elle est Inoue, du nord du Québec, et écrit de la poésie, et sa langue maternelle est l'Inoue, sa première langue est l'Inoue. Sa langue, et j'aime beaucoup cette définition, et je pense qu'on devrait peut-être remplacer les définitions de langue français, langue étrangère, France, par langue d'adoption. Et là, cette langue, elle l'a adoptée. Elle a adopté le français pour écrire. Et elle écrit en français pour être lue par plus de par un public plus large. Je vous recommande ce livre qui a été publié en suédois. C'est un petit peu compliqué. Vous avez en inou, en français et en suédois. Mais le livre maintenant est publié en France par Doucet en inou et en français. Et c'était avec l'AIEQ que l'on a pu faire ce projet. Donc de découverte d'une autre culture. Donc je crois qu'il faut faire un réseau et puis faire en sorte que le réseau ne soit pas personnel. Le diffuser quand je partirai à la retraite, il faut que ça soit ouvert à tous. Et là, on a deux collègues qui vont partir à un stage à La Rochelle avec le département de... le CRDP de La Rochelle de Charente-Maritime pour un projet de 3 jours de formation pour les chroniques lycéennes. Et ce projet, on le fait moitié-moitié. Le syndicat des enseignants de suédois en Suède paye 10 000 couronnes pour un billet d'avion, une formation pour un enseignant. Nous, on prend la même somme, 10 000 couronnes. Ce qui fait que 2 enseignants d'un même établissement suédois vont partir. L'un doit être professeur de français et l'autre professeur de musique. Mais rappelez-vous qu'on est toujours interdisciplinaire. Donc le professeur de musique qui part à musique et maths. Il comprend un peu le français. Le professeur de français qui part à français et histoire. Et les deux vont... partir ensemble, reviendront dans l'établissement et feront leur projet de musique qui va ensuite être conductible. Et c'est le but. Donc le projet doit être reconductible et présentable et applicable et pas coûter trop cher.
Est-ce que je peux vous demander si vous avez rencontré des obstacles et lesquels pendant justement la construction de ce projet, la mise en œuvre et même après son suivi, hein, puisque vous avez une deuxième phase maintenant qui démarre?
Je crois que l'obstacle, je crois qu'il faut, il y a les hauts et les bas, il y a les réponses négatives, mais il y a je crois qu'il faut aussi se limiter dans le projet. Si on donne trop de... À un moment, il faut dire, c'est stop, on est arrivé. On le bloque. Et ça a été le cas avec ce projet-là. Ça a été le cas avec le projet Un arbre pour Loli, qui continue maintenant sa vie, mais je dirais sans nous. C'était un projet, c'était en 2012... une écrivaine de Côte d'Ivoire, Fatou Keïta, Un arbre pour Loli. Le livre devient un livre audio traduit en suédois. C'était dans la campagne d'éducation autour du sida. Et ce projet a continué à faire boule de neige puisque le livre maintenant est traduit et disponible en CD, en Wolof, Malinguais, Swahili, Roumain, Portugais, Espagnol. Et toute personne qui donne sa traduction a droit à un t-shirt. Et le CD est gratuit, mais le livre doit être acheté en Côte d'Ivoire. Donc, ça tourne.
Merci. Guy Cherki, d'après vous, comment on peut finalement... réaliser un transfert de compétences, parce qu'on voit bien dans ces projets quand même qu'il y a beaucoup de compétences qui sont nécessaires, les compétences transversales aussi, et il y a des enseignants, vous l'avez dit tout à l'heure, qui naturellement ont ce don, ont cette caractéristique d'aller monter des projets, mais il y a ceux qui sont curieux, qui savent peut-être pas non plus comment s'y prendre. Qu'est-ce que vous suggérez?
Non, je ne suggère rien. Je vais vous donner un exemple d'un projet qu'on anime à la délégation académique aux arts et à la culture, qui est un projet Comenius Regio avec l'Italie, qui est piloté par la ville de Grenoble, mais qui a été initié par le rectorat de Grenoble et des écoles de Pavie. Donc c'est un projet autour du cinéma qui consiste à la fois à travailler sur des projets communs entre la France et l'Italie, des micro-projets avec des jumelages d'établissements, etc. Et puis d'un autre côté, à construire une sorte de curriculum pour savoir comment utiliser le cinéma en classe, à partir des compétences au niveau à la fois de la sensibilisation et de l'approfondissement, et au niveau aussi des différentes disciplines. Bon, c'est un projet donc à la fois pédagogique et didactique, et en même temps un projet sur le cinéma où on va faire en sorte que les élèves participent, tournent, etc. Bon, le projet dure 2 ans, on en est au début de la 2e année. Eh bien, nous avons réussi, et tous les profs sont des gens qui sont passionnés de cinéma, qui sont très intéressés, etc. Donc, c'est des gens qui ont les compétences. Nous avons réussi, au bout d'un an, à convaincre 3 collègues de travailler avec d'autres, parce qu'ils trouvaient qu'ils travaillaient beaucoup mieux tout seuls. Vous voyez, hein, les choses... Donc, la question du réseau, vous avez raison de le poser, c'est une question primordiale. La question du collaboratif, c'est une question primordiale. La question du collaboratif, elle est interpellée par le numérique, évidemment, mais regardez les difficultés qu'on peut avoir à mettre en place les espaces numériques de travail, parce que, à part quelques éléments, les notes, les moyennes, etc., c'est extrêmement difficile de mettre... Et je peux dire que nous-mêmes, au niveau des corps d'inspection, lorsqu'on a commencé à travailler autour du collaboratif, on s'est dit, bah, il faut qu'on s'y lance, nous d'abord, pour mieux accompagner les profs. Ça a été désespérant. Ce que je veux dire, on n'avait pas le réflexe. Le réflexe de mettre de la ressource, de partager les choses, etc., c'est quelque chose qui ne se décrète pas. Donc, moi, je pense que la question du réseau est une question essentielle dans l'interdisciplinaire. Ça peut être un réseau d'amitié, ça peut être un réseau scientifique, ça peut être toutes sortes de réseaux. La question du collaboratif, de travailler ensemble de manière modeste, c'est aussi quelque chose d'important. Vous avez dit que pratiquement, c'est le cas de nos collègues italiens, pratiquement tous les enseignants d'Europe enseignent 2 matières. Hein. Bon, on le sait bien. Mais, alors je vais aller regarder de l'autre côté. Nos enseignants du primaire enseignent toutes les matières. Que nous disent nos collègues inspecteurs de l'éducation nationale? Que les enseignants du primaire, dans leur enseignement, ils sont cloisonnés.
C'est pas possible.
C'est ce qu'ils nous disent. Alors, bien sûr, tout le monde ne l'est pas. Mais quand ils enseignent les maths, c'est les maths. Et puis après, on va enseigner. Et on reproduit une sorte d'emploi du temps de collège, mais fait par un seul ou deux.
Non, mais c'est l'école qui
en... Non, je veux dire, c'est des habitudes. Alors, il y a des fois, il y a des choses qui se passent, évidemment, qui sont tout à fait extraordinaires. Mais il y a ce cloisonnement. Le cloisonnement n'est pas forcément... c'est pas parce qu'on enseigne une seule discipline qu'on est cloisonné. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il y a peut-être nos collègues qui enseignent en lycée professionnel, parce qu'ils ont un public difficile, particulier, un peu éloigné des savoirs qu'ils dispensent. Par exemple, les collègues qui enseignent le français, l'histoire, géographie ont pris l'habitude de problématiser, de travailler autour de projets, etc. Et c'est peut-être plus de leur côté, parce qu'eux, ils sont bidisciplinaires, c'est peut-être de leur côté qu'on va trouver des choses intéressantes, parce que, en plus, leur public est un public à convaincre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le public de toute l'école est à convaincre. Ça, c'est une question forte sur l'appétence de l'école, etc. Mais moi, ce que je pense, pour répondre à votre question, la question de la formation, qu'est-ce que ça veut dire former à l'interdisciplinaire? Vous allez dire organiser des réunions, parler ensemble, se fédérer. Je veux dire, la question, elle n'est pas facile, la question de la formation. Former au projet, former à la pédagogie de projet, oui. On a vu l'interdisciplinaire bien fonctionner avec les TPE, par exemple, ou les projets, ou les itinéraires de découverte. Ça a bien fonctionné. Ou ce que les collègues de lycée professionnel appelaient le PPCP. Tout ça existe encore, mais n'existe plus. Je veux dire, rien n'a été supprimé. Mais alors que ça rentrait dans les mœurs, ça a été tout de même marginalisé. C'est toujours l'histoire de la réforme qui avance masquée à petits pas. Mais je pense que pour un professeur de français, il y a quelque chose qui est partagé avec tous les autres professeurs, obligatoirement. C'est la langue. Or, lorsque vous entendez les collègues d'autres disciplines, quand on leur dit la maîtrise de la langue, c'est une c'est une compétence partagée. Tout le monde doit l'utiliser. Bon, bien. Ou bien vous avez quelquefois des réactions du type c'est le prof de français qui doit corriger les fautes. Ou bien vous avez des réactions du type, ça je l'ai vu parmi des collègues de mathématiques, très grosse résistance à parler de la langue des mathématiques, parce que parler de la langue des mathématiques, c'est pas parler des maths. Et donc, c'est considéré comme, quelque part, déchoir. La question de la langue est une question qui, au vu, est une question qu'on ne pose pratiquement jamais. C'est-à-dire que le rôle du professeur de français, c'est évidemment d'étudier la langue. Mais quel projet interdisciplinaire que de se mettre ensemble sur ce qu'on a en commun, à savoir la langue dans toutes ses variations. Comment j'utilise la langue en SVT, comment j'utilise la langue en histoire-géographie. Ce n'est pas une question de terminologie, parce que les élèves, la terminologie, ils l'apprennent tout de suite. C'est une question de démarche. Est-ce que je me pose, quand j'enseigne, la question de la langue? Voilà un travail interdisciplinaire qui pourrait faire acquérir à nos élèves une conscience langagière qu'ils n'ont pas. Et aux enseignants en même temps. Parce que l'enseignement du français, si l'enseignement du français est très axé sur la littérature, et c'est tout à fait, il faut garder cela, l'enseignement de la langue actuellement connaît une énorme difficulté, d'énormes difficultés. Et je pense que si, par exemple, déjà, on faisait travailler en commun des profs de toutes les disciplines autour du CECRL, peut-être qu'on aurait une réflexion différente et partagée. Parce que, à part les professeurs de français langue étrangère et les professeurs de langue vivante, le CECRL, c'est un outil que personne n'utilise. Or, c'est un outil qui fait travailler sur les compétences, on parle beaucoup de compétences en ce moment, hein, qui fait travailler sur une évaluation diverse et différenciée, on parle beaucoup d'évaluation différenciée, etc. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose de... Enfin, c'est simple et c'est complexe, mais la question de la langue est une question purement interdisciplinaire, pluridisciplinaire, c'est une question à se partager et c'est une question qu'on ne pose jamais, sinon sur le mode de la plainte et de la lamentation. Les élèves ne savent plus ceci, ne savent plus cela, ils orthographent plus, etc., etc., etc. Or, et en même temps, c'est un de mes dadas, revenir à la langue, c'est revenir au français qui se pratique, au français langue vivante, dans toutes ces variations, et aussi bien ces variations sociales que ces variations scolaires. Il suffit de suivre une classe de sixième, du matin jusqu'au soir, ce que j'ai fait dans mon métier d'inspecteur, pour comprendre que aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, un élève de sixième a d'énormes difficultés à percevoir tous les discours qui lui sont déversés pendant toute une journée. Parce que ce sont des discours différents, sur des modes différents, avec des habitudes de langage différents. Et ce n'est pas une question de grammaire ou d'orthographe, c'est vraiment une question de pratique de la langue. Et là, il y a un travail interdisciplinaire à faire. Voilà, c'est une manière de répondre à votre question.
En tout cas, une très belle manière d'y répondre. J'interroge alors Françoise Soulet, puisque son expérience est un peu différente, étant en Suède. Et comment, d'après vous, on peut développer ces approches? J'irai plus dans une notion d'accompagnement, peut-être, du professeur ou un suivi de l'enseignant.
Attendez, ça marche, oui. Guy, quand vous avez parlé du métier d'enseignant, je retournais en arrière. Et c'est vrai que peu de choses ont changé, mais ça va changer. Ça va changer. Ça va forcément changer. Mais la question est difficile parce qu'on ne peut jamais adopter un modèle différent. La Suède a 11 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas mettre un modèle pédagogique suédois dans un modèle français. On est bien d'accord. Il y a le fait aussi de... dans cette façon de travailler à la suédoise, on travaille en groupe. La notion de groupe est essentielle. La notion de travail d'équipe est essentielle. Et les enfants sont habitués à travailler en équipe. L'enseignant suédois suit ses élèves pendant 3 ans. Il n'y a pas de rupture. Pour le meilleur et pour le pire, parce que on se supporte, mais on apprend là. Donc il y a ces détails pratiques extrêmement importants. Il y a aussi des durées des journées scolaires qui sont beaucoup moins chargées. Donc la fatigue est certainement moindre au niveau de l'enfant, même s'il y a fatigue. Donc c'est difficile de répondre en disant « voilà, j'ai la solution ». Je pense qu'il faut être conscient des pratiques de chaque pays et voir comment on peut modifier. On peut améliorer, on peut critiquer, on peut apporter.
Est-ce que dans la salle, quelqu'un veut témoigner justement par rapport à ce qui vient d'être dit sur des expériences de collègues étrangers notamment?
Excusez-moi, je voudrais juste introduire un autre élément qui me semble important dernièrement pour les systèmes éducatifs, c'est les évaluations internationales. Parce qu'au Portugal, on se rend compte que les résultats du PISA ou d'autres études qui viennent, chaque fois vont dans le sens de revaloriser certaines disciplines et d'en dévaloriser d'autres. Donc même si on essaie de monter des projets interdisciplinaire, où on est sur un pied d'égalité, tout d'un coup, le projet plonge parce qu'effectivement, l'institution veut de bons résultats en maths, veut de bons résultats en langue maternelle, en physique, chimie, bon, et autres. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me semble, qui pourrait être un régulateur, mais qui en fait ne fonctionne pas, dans ce sens, un sens positif pour l'enseignant.
Moi, je voulais juste faire un commentaire sur une autre façon de faire l'interdisciplinarité. Il y a des recherches qui se font un peu partout, mais au Québec, on a Isabelle Gauvin, de l'Université du Québec à Montréal, puis Roy Lester, l'Université McGill, qui travaillent sur les passerelles entre langue maternelle ou langue première et langue seconde. Chez nous, ça commence très timidement à rentrer dans la salle de classe. Et je pense que, surtout quand on parle de langue, c'est bien d'aller voir les matières qui ne sont pas linguistiques à proprement parler, mais qu'il faut voir les autres langues sans nécessairement faire de la traduction ou d'enseigner dans une autre langue. Juste de comprendre que dans la langue première, langue seconde, il y a des structures qui se ressemblent, des structures qui se distinguent. Et en parlant avec nos collègues qui enseignent les autres langues, on gagne beaucoup et nos élèves gagnent beaucoup parce que leur enseignement, leur apprentissage, c'est-à-dire, ça va être de loin plus efficace.
Je rebondis sur ce que vous avez dit. J'ai initié dans l'Académie de Grenoble une expérience d'approche plurilingue pour du latin. C'est-à-dire apprentissage du latin par les langues vivantes. Les élèves étaient fous. C'est parce qu'ils apprenaient du latin, mais ils comprenaient mieux certaines erreurs qu'ils faisaient en anglais. Ils comprenaient mieux en traduisant, en regardant une traduction de l'Énéide de Virgile en portugais. Ils comprenaient un certain nombre de choses. Ils ont pu déterminer la nature du serbe, par exemple, parce qu'ils ont eu un début de, je crois que c'était Horace, avec la traduction serbe à côté, et donc ils ont pu, par imprégnation et par comparaison. Et donc, effectivement, l'approche plurilingue est un élément fondamental. On essaie aussi en France d'utiliser, vous savez, il y a des collèges où il y a 38, 40 langues qui sont parlées, et que cette compétence-là, elle n'est jamais utilisée. Elle n'est jamais utilisée. On a des élèves qui parlent 4 langues et qui ne sont et dont la compétence linguistique n'est pas valorisée. Et donc, mais ça demande en termes didactiques des approches extrêmement difficiles. Et il y a de grosses résistances dès qu'on parle de plurilinguisme. Il y a de grosses résistances, d'une part à cause de la symbolique français, langue de l'école. On ne va pas parler de plurilinguisme parce que ce serait reconnaître quelque chose qu'on n'a pas envie trop de voir quelquefois. Et puis deuxièmement, on a une question. Moi, j'ai eu un chef d'établissement qui m'a dit « Ah non, non, plurilinguisme, non, parce que les élèves vont se parler dans une langue que je ne comprends pas et Dieu sait ce qu'ils vont se dire. » Donc, il y a toutes sortes de résistances. Mais moi, je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit précédemment. Il y a des systèmes différents, il y a des démarches différentes, mais la démarche plurilingue est une démarche aujourd'hui qui me paraît essentielle pour l'approche des langues et l'approche de la compréhension, l'intercompréhension. Mais il y a aussi un autre élément qui, là, est commun à tous les systèmes, c'est le vouloir et les pratiques de l'élève. C'est regarder l'élève. J'ai bien entendu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est regarder l'élève faire. Et ne pas considérer que ce qu'il fait, ça n'est pas conforme à ce que veut l'école. L'école, la population de l'école, c'est quand même la population des élèves. On est là pour eux. Hein. Et donc ça, c'est une démarche. Parce que l'élève, dans ses comportements, je ne parle pas scolaire, tout à l'heure je l'ai dit, mais dans ses comportements, il est complètement ouvert et disponible. Il a une très grande disponibilité, l'élève. Et donc, il faut la saisir, cette disponibilité-là. Et ça, l'interdisciplinarité est un élément, ce n'est pas un élément qui va être imposé par des organisations, etc., parce que là, c'est fichu. Mais à partir du besoin de l'élève, est-ce que vous disiez, à partir de leur demande, oui, on peut construire quelque chose, bien sûr. Et de plus en plus, le besoin de l'élève est au centre de tous les systèmes. Et donc là-dessus, il faut évidemment venir à ça. sans parler de la question de l'explosion et de l'éclatement des savoirs. Hein, parce qu'il n'y a qu'à l'école qu'on a des cloisonnements. Parce qu'aujourd'hui, les savoirs, ils sont partout, ils circulent partout, bien ou mal d'ailleurs. Parce qu'on sait bien que les sources ne sont pas toujours fiables. Mais en tout cas, ils circulent partout et les élèves, ils y ont accès comme ils veulent.